Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Comics Weekly. Au sommaire de notre émission, la dernière semaine de numéro 0 de chez DC, avec un passage obligé chez la Bat Family, et notamment le dernier nouveau titre de cette nouvelle vague, le Talon. On passera chez Marvel avec la sortie du Ultimates, qui est un moment important dans l'univers Ultimate, vous en avez sûrement déjà tous entendu parler. Et on aura aussi de l'indé avec la nouvelle mini-série de Grant Morrison qui débarque chez Image, et bien sûr, les TPB de la semaine. Je suis Steve, et vous écoutez le 114e Comics Weekly. Avec moi cette semaine, la Trinité classique, King Ed.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Et Sam.
Bonjour.
Et moi, ça fait trois, donc la Trinité.
Voilà.
Non, parce que je dis avec moi la Trinité, en fait, c'est débile, étant donné.
Oui, tu fais partie de la Trinité.
Voilà, non, on donnerait l'impression que j'ai trois personnes avec moi. Mais c'est...
Bah non, en fait, on est trois. Hein.
On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec la Bat Family, qui nous sort quand même... quatre titres, même s'il y en a un qui n'est pas considéré comme de la Bat Family classique. Cependant, le personnage en fait partie, on verra ça tout à l'heure. On commence avec la nouvelle sortie et la nouvelle série régulière pour cette nouvelle vague de titres d'essai, c'est Talon. Talon est écrit par James Tynion IV et Scott Snyder. Bien sûr, c'est le numéro 0, hein, nul besoin de le préciser, ce sera que des numéros 0 chez DC. On a Guillaume March qui est au dessin, et on va suivre donc un personnage, c'est ce qui nous avait été teasé dans les sollicitations, un membre des Talon, cette armée du Court of Owls, l'organisation secrète dans les recoins de Gotham, qui s'est échappé et qui a réussi à se libérer de l'influence du Court of Owls et essaye de reprendre en main sa vie après avoir été entraîné comme Talon. Dans ce numéro 0, justement, on va découvrir un petit peu ce personnage, Calvin Rose. On va voir que sa vie n'a pas toujours été super évidente.
Ça n'a pas été rose.
Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Et qu'il est surtout un superbe... comment on pourrait traduire ça en français un roi de l'évasion, voilà. un maître de l'évasion, un Houdini en puissance, en quelque sorte. Alors, tu avais une théorie, toi, King Ed, que tu nous as soumise juste avant le...
Ah, non, mais c'est parce que je suis pas le seul. Hein. Je crois que sur Internet, il y a déjà des gens qui commencent à penser ça aussi. Mais vu son introduction et le côté, justement, Houdini, des personnages chez DC, on sait qu'il y avait eu ce Scott Free, qui était Mr. Miracle, qui était un peu spécialisé là-dedans. Ça se trouve, Snyder et Tynion, ils nous font un truc, c'est peut-être lui, et il a une autre identité, il a été abandonné par Darkseid sur Terre, et voilà, enfin, je sais pas, pourquoi pas. Ça pourrait être un retournement de situation assez rigolo et faire le lien avec Apocalypse et quoi. Apocalypse, pardon.
Mais sachant en plus que maintenant on le sait grâce à Wonder Woman, les New Gods, il y en a toujours, donc c'est tout à fait possible que ce soit Scott Free. Oui.
Après c'est juste une petite théorie, mais en tout cas ce personnage, je trouve que l'introduction est plutôt bonne. C'est bien écrit, c'est début.
On s'attache rapidement à lui, hein, c'est ça qui est déjà très très bien.
Il est contemporain au niveau âge avec Bruce Wayne. On voit qu'il était dans le même cirque où était Dick Grayson quand lui il était petit. Donc ils ont à peu près le même âge, Bruce et justement Calvin. Donc voilà, c'est un des derniers talons en fait qui a été recruté par la cour des hiboux. Il n'a pas subi le traitement qu'ont eu tous les autres talons. Et voilà, il a un caractère assez trempé. Plutôt classe, et les dessins en plus le mettent bien en valeur, je trouve. J'ai trouvé que Guillaume March faisait un bon boulot sur ce numéro, comme quoi il fait pas que des jolies filles en dessin, il se débrouille bien aussi quand il a des personnages masculins, donc je sais pas, moi je suis content, hein, on en avait déjà parlé, quand il y a des nouvelles créations de personnages, j'aime bien leur donner leur chance, et là il part sur de bonnes bases, je trouve.
Ça m'a
Je vais pas rajouter non plus 10 000 choses. J'ai trouvé cet épisode 0 assez solide, un épisode qui retrace les origines du personnage, mais pas plus convaincu que ça. Ça m'a pas assis par terre à la fin de l'épisode. Je me dis oulala, il faut que j'aille lire l'épisode suivant.
Qu'est-ce qui t'a manqué?
Je sais pas. Le personnage en lui-même m'intéresse pas des masses. Voilà, toute l'histoire du Court of Owls déjà m'avait pas passionné à la base, donc avoir un dérivé de cet arc encore, ça m'intéressait déjà pas beaucoup à la base, donc voilà.
Moi, tu vois, je me demande à la lecture de ce premier épisode si on va vraiment voir le Court of Owls tout le temps. J'ai bien l'impression qu'on risque d'avoir une série un peu à l'image de Scarlet Spider. en ce moment. Tu la lis, hein, toi, Sam, je crois.
Oui, mais c'est-à-dire.
Un personnage, tu vois, qui est un peu dans une autre ville, qui sait qu'il est pourchassé, mais voilà, qui essaye de refaire sa vie ailleurs en sauvant des gens. Voilà, un second couteau, exactement. C'est vraiment le personnage typique qui n'aura pas grand lien, je pense, avec le reste de l'univers DC, en tout cas dans des premiers temps.
Ben, disons que personnellement, ça m'aurait vraiment plu si à la fin de l'épisode, il se disait j'en ai marre, je vais attaquer le Court of Owls. Là, ça m'aurait plu. Là, je me suis dit, il y a un truc.
Oui, enfin, alors en, que même là, temps, en même temps, on est tout le temps dans le passé dans cet épisode. On n'est pas du tout dans le présent, donc on va découvrir dès le mois prochain avec le numéro 1 ce qui se passe. Parce que là, on est il y a 5 ans, comme la plupart des autres. Donc après tout, on a juste les origines et tout reste à faire finalement. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai, quoi.
Oui, oui. Et après, moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils vont faire tenir un nouveau titre sur un personnage sans pouvoir. Il y a pas beaucoup de titres chez DC où justement le à part Batman quoi qui qui a quand même beaucoup d'argent et pour pouvoir se débrouiller
beaucoup de titres
mais là en fait lui à part son côté escape artist il a pas de pouvoir méta-humain ni rien, il a même pas subi le traitement qu'ont eu les autres talons
tu sais pour Nightwing c'est la même chose hein.
Oui mais bon je sais pas comment à mon avis il manque un petit twist qui permettrait de rendre le personnage peut-être un peu plus puissant ou un peu plus je sais pas.
Donc, en même temps, je veux dire, non, il n'est pas que escape artist quoi. Je veux dire, il est aussi capable de s'infiltrer dans les systèmes de sécurité. Il a appris comment se dissimuler, ouvrir les portes même qui sont fermées électroniquement et tout. Donc, il n'est pas juste cantonné à ouvrir des cadenas, se débarrasser des chaînes et à réussir à enlever des camisoles de force quoi.
Ouais. Bon, mais bon, de toute façon, voilà, c'est un numéro zéro. Le contrat est bien là. Il y a les histoires, les origines. Maintenant, j'ai envie de lire quand même le numéro 1 et voir où ça va partir après pour vraiment voir quel va être le fil conducteur de cette nouvelle série.
Moi, le seul point peut-être négatif que j'ai avec cet épisode, c'est est-ce que franchement la Bat-Family est capable de supporter un titre supplémentaire sans que ça devienne trop racoleur, quoi. On capitalise sur le personnage et l'univers de Batman
déjà, on
vraiment
pour faire.
S'il s'éloigne de Gotham City comme tu le penses, Steve.
Bah, c'est ce que j'espère et que ça permettrait d'avoir un second souffle dans une série typée Batman, hein. En tout cas tirée de l'univers de Batman.
Ouais. Mm. Ouais, ça ce serait bien. Ouais.
Donc vos notes.
Pour moi un bail.
Pour moi aussi un bail.
Pour moi un check-it.
Check-it pour toi Sam. On va continuer donc toujours dans la Bat-Family avec la sortie du Batman The Dark Knight numéro 0. Et c'est toi qui vas nous en parler Sam.
Oui, donc ce scénario de Greg Hurwitz est dessiné par deux dessinateurs cette fois-ci, pas par David Finch, mais par Miko Suayan et un autre dessinateur qu'on connaît mieux, Juan Roserip. Donc, nouvel épisode 0 de Batman par Greg Hurwitz, puisqu'il nous avait sorti il y a 2 semaines le Detective Comics 0, qui était très bon, puisqu'il a fait quasiment l'unanimité chez nous.
Oui.
Et là, il s'attaque à une autre période du passé de Bruce Wayne, deux périodes en fait, particulièrement. En fait, on revient à Bruce Wayne quand il est enfant dans les semaines qui suivent l'assassinat de ses parents, alors qu'il se convainc en fait que la mort de ses parents n'a rien d'accidentel et que il y a une conspiration, et on le retrouve quelque part comme 10 ans plus tard, quand il a 18-19 ans, et que ses recherches commencent à aboutir et qu'il arrive à trouver des liens, des schémas de conspiration autour de ses parents pour voir qui étaient leurs ennemis.
Et là, à ce niveau-là, je trouve que Greg Hurwitz fait vraiment du bon boulot, parce qu'en fait, avec ces deux titres, il arrive à nous faire presque toutes les origines de Batman, de son enfance jusqu'à son entraînement. Donc là, c'était vraiment pas mal de ce point de vue-là chez DC pour ce numéro.
En termes chronologiques, il serait à lire vraiment avant le Detective Comics. Il faudrait lire celui-ci, puis le Detective Comics. Ouais.
Et ce que j'apprécie aussi, c'est le côté original, parce que j'ai pas de souvenir d'histoire qui raconte ce qu'avait fait Bruce juste après la mort de ses parents. Et là, ça nous permet de voir ce personnage, voir déjà qu'il avait cette envie d'enquêter, le petit côté déjà petit détective, et ça m'a pas mal plu. C'est assez bien ficelé, le scénario. Il n'y a pas d'énormes surprises. Et puis, graphiquement, c'est honnête aussi, je trouve.
On voit qu'il avait commencé en tant que détective avant de commencer en tant que combattant, quoi, en tout cas, que personne capable de se défendre. C'est vraiment le côté détective. Principalement chez Batman. Quoi.
C'est presque étonnant.
Boulot,
ouais, c'est presque étonnant. Ils auraient presque dû faire le Detective Comics 0 avec cette histoire et inverser pour Dark Knight, parce que il y a plus le côté détective, comme tu dis.
En fait, c'est pour montrer qu'il a, à la base, je pense, des talents innés en tant que détective, alors que les talents de combattant, ça, il faut les acquérir. Même si t'as une bonne base physique à la base, ça s'apprend en fait. Alors que les talents de déduction, tu les as ou tu les as pas.
Alors, il y a juste une chose, moi, que j'ai vraiment pas aimé dans cet épisode, et j'ai vraiment envie de le souligner parce que ça m'a gonflé.
Ouais.
C'est sur la dernière page, quand on voit qu'il pleut et qu'on voit cette image du clown. Je vais pas en dire plus. Honnêtement,
j'ai pas compris, moi.
Je l'ai trouvé vraiment inutile, cette image.
Alors, soit elle sert vraiment à rien, soit c'est un indice pour nous dire que finalement il y a peut-être un lien.
Ouais, mais moi, enfin, j'ai plus vu comme inutile et limite un peu racoleuse, tu vois.
Ouais, je voyais pas trop non plus à quoi elle servait cette image. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'utilisation.
Ah non, moi je sais. Ah, en fait, c'est.
Peux-tu le faire sans spoiler ? Attention.
Je pense que c'est une référence à Killing Joke, parce qu'il y a tout un passage en fait dans Killing Joke où le Joker, tu sais, lui explique que... Non, je vais pas spoiler, mais Killing Joke, je pense que tout le monde connaît quand même. en fait, tu sais, qu'il lui explique que dans sa tête, il a plusieurs origines, plusieurs passés. Il sait, il est tellement dingue qu'en fait, il sait plus quelle est l'histoire, son histoire. Et il y a une phrase qui, je pense, tout le monde se souvient, c'est « Il suffit d'une seule mauvaise journée pour vous faire basculer dans la folie. » Et en fait, c'est le moment est bien choisi, je trouve, pour ça, puisque, grosso modo, c'est le moment où il découvre la vérité sur qui a tué ses parents et que ça peut le, en fait, qu'il est à la limite de la folie à ce moment-là.
D'accord, tu penses ouais, plus peut-être. une métaphore.
Je pense que c'est pour ça. Mais je pense que la référence du Joker est pour ça. Il est à deux doigts, en fait, de craquer à cause de ça.
Mais c'est Gregor Witts qui aime bien jouer avec les métaphores, puisque moi j'ai bien aimé graphiquement les perles, en fait, la façon dont elles étaient représentées dans le comics, entre les vraies
tout
perles
temps,
du collier de la mer et puis la grêle. Et la pluie, c'était assez joli ces scènes. Donc, dans la noirceur, il y avait un peu de poésie aussi, je trouvais. Donc, c'était pas mal.
Voilà.
Une bonne lecture.
Ouais, bah ça reste une bonne lecture. Pour moi, ça restera un bail parce que voilà, on a les origines et notamment la vérité ou est-ce la vérité temporaire, mais en tout cas, on a un premier point sur la mort des parents façon New 52. Donc, je pense que ça reste un incontournable. Maintenant, bon, ça reste un bail juste pour ça, quoi.
Ouais, pour moi c'est un bail aussi et je me dis que ça il y a eu un bon il y a eu de bons titres Batman numéro 0 qui font un peu toutes les origines de Batman de Bruce Wayne jusqu'à Batman.
C'est quand même pas aussi bon que le Détective Comics hein.
Ouais, moi je trouve que ça va bien ensemble.
Ouais. Moi je trouve ça aussi que c'est très bon. C'est peut-être un peu en deçà de Détective Comics parce que là on était vraiment dans un autre esprit mais moi j'ai vraiment aimé. Voilà, Greg Hurwitz c'est vraiment un très bon boulot. Sur un truc qui n'était pas évident, parce que deux numéros zéro sur le même personnage, fallait le faire quand même.
Ouais.
Et deux histoires originales. Donc moi j'ai vraiment adoré. Donc c'est un bail.
Alors on va continuer toujours dans la Bat Family avec un titre qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas réellement un titre Bat à proprement parler, c'est le Teen Titans numéro 0.
Oui, avec Scott Lobdell au scénario, et au niveau des dessins, c'est Tyler Kirkham. Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, c'est pas les origines des Teen Titans, c'est les origines de Tim, de Red Robin. Donc, comme
de toute façon, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que les origines des Teen Titans c'était complètement crétin, sachant que on les voit, c'est l'objet du premier arc.
Exactement. Alors ça, c'est un petit truc qu'on peut noter à nos auditeurs, c'est qu'en fait, il y a eu des petits retcons dans les TPB justement sur Teen Titans, où ils ont édité le numéro 1 pour éliminer des notions qu'il y avait eu des équipes de Teen Titans qui avaient existé avant. Donc comme tu dis, la première équipe de Teen Titans, c'est celle qu'on a dans Teen Titans numéro 1 et compagnie. Donc et même le fait qu'il ait été Robin, ça a été édité dans le TPBVO. Il a toujours été Red Robin. Donc ça c'est des petites choses où ils ont fait un petit peu de rétrocontinuité sur leur propre travail qui date de moins d'un an. Et là en fait Scott Lobdell nous raconte les origines de Tim. Comment il a pu devenir un des Robin, donc le Red Robin de Batman. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, je vais me répéter, mais j'ai trouvé l'histoire plutôt bonne. Moi, j'avais très peur parce que une de mes histoires favorites chez DC, c'était Identity Crisis. C'était la façon dont la réaction de Tim après la mort d'un de ses proches et c'était quelque chose qui était hyper important pour le personnage et je savais pas s'ils allaient reprendre cette histoire. Ça a été revu d'une façon assez intelligente et voilà, c'est un nouveau monde hein, c'est un nouveau Tim avec de nouvelles origines et le personnage est assez charismatique et on voit que j'ai bien aimé la narration de Bruce en fait qui parle bien du personnage et qui montre que il avait beaucoup d'avenir devant lui.
Alors, moi de mon côté, c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, ça change beaucoup. C'est la version New 52 qui n'a pas plus rien à voir avec l'ancienne version, mais en tout cas, il y a énormément de changements et des changements très très importants pour le personnage de Tim. Mais finalement, j'aime bien. Moi qui suis pourtant, c'est vrai que j'ai tendance à être très à cheval sur la continuité et j'aime beaucoup qu'on la respecte. Là, étant donné que c'est un nouvel univers, ça, c'est typiquement ce qu'ils auraient dû faire pour les New 52 pour moi. C'est-à-dire, quitte à changer, autant changer plein de choses. Plutôt que nous laisser des trucs qui datent d'avant, mais que, en fait, on sait pas si ça a eu lieu ou pas, etc. Et donc, du coup, j'ai vraiment bien aimé ce numéro 0 et je trouve que le travail de Scott Lobdell dessus est vraiment pas mal. Il y a eu des petits défauts au départ, comme tu l'as dit, l'édition des TPB, et ça reste quand même vraiment très limite. Mais voilà, là, c'est une très bonne origin story pour Tim Drake. Non, franchement, un bon boulot et un personnage que du coup m'intéresse plus parce qu'il est quand même relativement différent. Il n'a pas vécu exactement les mêmes choses que ce qu'on avait l'habitude auparavant. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Sam, du coup.
Plus réservé. Encore une fois. Plus réservé parce que je veux dire, c'est bien dans la première partie. Quand il essaye de déduire en fait qui est Batman, ou c'est assez intéressant. Sauf que toute la deuxième partie, pour moi, c'est une grosse connerie. Mais vraiment, là, c'est Tim Drake qui agit comme un gros con.
Ah, c'est un gamin en même temps.
Ouais, mais en même temps, j'aurais préféré qu'il continue la caractérisation qu'on avait dans le Batman Zero. J'arrête pas de le citer cet épisode, mais ce backup, qui était vraiment très bon, on avait une caractérisation de Tim Drake qui était mais extraordinaire. Et en fait, là, on a un petit con.
Oui, mais alors, tu vois, justement, c'est la différence avec aussi l'ancien univers. L'autre différence, c'est que autant avant, on voyait Tim Drake plus comme un deuxième Dick, autant là, même Bruce Wayne le voit, lui, comme un deuxième Jason. Donc, ouais. ce changement d'attitude, ça équivaut bien, justement, à la mentalité de Jason, à tout ça. Et du coup, qu'on ait un personnage un peu plus rugueux, on va dire, c'est pas étonnant.
Moi, j'ai plus l'impression que Bruce trouve que c'est un gamin qui est encore meilleur que lui, en fait. Il trouve que c'est presque un meilleur Bruce Wayne. Il y a des rapprochements avec Jason, mais on a l'impression dans sa narration que c'est peut-être le meilleur des éléments qu'il a eu sous sa coupe. Et ça, ils ont conservé ce côté hyper intelligent du personnage. Après, un personnage intelligent peut faire une grosse connerie à un moment dans sa vie. Et là,
c'est vraiment la grosse connerie de niveau olympique. Hein.
Ouais, mais enfin, tu sais, Sam, tu disais que tu préférais dans le Batman Zero, mais je trouve quand même que dans le Batman Zero, on avait quand même affaire à un petit con très intelligent. Oui, mais il avait quand même une façon d'être très petit con, quoi. Très arrogant.
Je suis d'accord, mais au moins, il était marrant. Là, c'est un petit con qui ne pense absolument pas aux conséquences.
Ah, mais il est à l'adolescence. Alors que dans le Batman Zero, on l'a vu, il avait 10 ans.
Ouais, et on le voyait quand même planifier parfaitement son coup, alors que là, il planifie que dalle.
Oui.
Ouais, mais c'est on voit que c'est sur le coup de l'émotion et de la frustration, de pas. Ouais, voilà.
C'est son premier échec, finalement. Et puis, on voit bien que c'est un gamin à qui tout a réussi.
Rien que de voir Batman aller sur ICQ, c'est quand même assez drôle, déjà.
Bah oui, vu qu'il n'y a pas Oracle, il faut qu'il fasse tout lui-même.
Voilà, donc, non, voilà. Mais c'est un bon numéro. Alors, juste une petite chose, c'est que, par contre, ça va pas vous donner envie de lire Teen Titans, parce que, à part le fait que c'est sur Tim Drake, je veux dire, on voit pas du tout les équipes de Teen Titans, et c'est pas du tout une introduction à des futurs épisodes des Teen Titans. C'est plus un titre Bat Family, plus Batman, quoi.
C'est plus une intro à une série Red Robin.
Ouais, voilà, presque.
Bah, pour moi, ça restera un bail, parce que j'ai vraiment bien aimé cet épisode, et notamment l'écriture de Scott Lobdell, qui répond à pas mal de questions, change beaucoup de choses, et finalement nous rend un personnage qu'on connaît, intéressant, mais avec plein de choses de nouvelles à découvrir, finalement. Et puis, il y a la potentialité d'avoir de nouvelles histoires. Je vais rien révéler sur la fin, parce que sinon, ce sera un peu spoiler, mais on en a parlé un petit peu en off. Voilà, je sens qu'on risque de partir là-dessus dans si ce n'est le prochain arc, l'arc d'après.
Ouais. Donc, pour moi, c'est aussi un bail. Scott Lobdell fait du bon boulot. Il avait tenté des choses un peu fofolles aussi avec Red Hood, et c'était pas mal. Et là, c'est aussi pas mal, donc un bail.
Sam.
Pour moi, un check-it. Un petit check-it.
Et ben, on va terminer la Bat Family avec toi, Sam, qui a lu le Batman Inc. numéro 0.
Oui, donc c'est écrit cette fois-ci par Chris Burnham et Grant Morrison, et dessiné par Fraser Irving. Donc vous comprendrez à la vue des crédits du scénario que Grant Morrison, il en avait un peu rien à battre, hein, de ce numéro 0. Et ça se sent à l'intérieur, parce que c'est service minimum. Hein. En fait, ce qui se comprend, parce que le but du numéro 0 de Batman Inc. et de manière générale, c'était de raconter les origines. Sauf que les origines de Batman Inc., on les avait déjà dans le premier volume de Batman Inc. qui était tout le recrutement. Donc, du coup, Le numéro 0 se justifiait pas des masses, hein. On aurait pu sauter, je pense.
Ouais, mais attends, franchement, quand tu regardes le numéro 2, ça aurait très bien pu être le numéro 0 de Batman Inc. Et là, à mon avis,
ouais.
C'est Morrison lui-même qui a fait une erreur en faisant son numéro 2 le numéro 0. Alors, je veux bien qu'il n'accepte pas le fait d'avoir à faire des numéros 0, que ça le fasse chier, d'accord.
Et encore, je sais pas, parce que le numéro 2, c'était plus les origines de Talia, et en fait, l'histoire vue de son point de vue.
Le 1, c'était... Talia, elle est quand même membre très important dans cette série Batman Inc.
Non, mais voilà.
Moi, c'est ça que, enfin, je veux dire, bon, je l'ai pas lu, hein, donc je me base vraiment que ce que tu dis. J'ai du mal. Mais enfin voilà, moi ça me paraît être juste Grant Morrison qui en a rien à foutre et qui de toute façon l'a déjà dit, veut plus travailler pour DC, veut se barrer. Donc, cependant, ça laisse quand même la question de quoi pour Multiversity, quoi. Hein, cette fameuse série qu'on a depuis très longtemps.
Je crois qu'il était en train de l'écrire encore.
Oui, il est en train de l'écrire, mais il veut se barrer de chez DC. Il faut savoir ce qu'ils veulent, monsieur.
En même temps, Multiversity, ça sera justement sur le reste de l'univers, pas les New 52. Donc il sera plus libre et on le fera un peu moins chier, je pense.
Ouais, mais enfin, tu vois, c'est le principe. Moi, le fait de saloper un travail parce qu'on n'est pas très content, j'estime que c'est pas professionnel.
Donc voilà. Donc en fait, on retrouve quelques personnages qu'on avait déjà vus dans le premier volume, notamment le Batman japonais, le Batman indien, tout ça. Voilà. Bon. On n'a pas beaucoup d'informations. On voit le Batman australien à un moment, donc ouais, c'est sympa. Mais en plus...
Et c'est un aborigène en pagne avec un masque.
Non, c'est un type avec... tu vois un peu Human Bomb?
Ouais.
Mais c'est un peu pareil, le costume.
D'accord. Dommage, il aurait pu aussi en faire un surfeur. Ça aurait été classe.
Un Crocodile Dundee.
Voilà, bon.
C'est sympa. Un Batman qui fait du surf. Vraiment... On n'a pas du tout clichés sur l'Australie.
Là, on a un boomerang, hein. Donc on a un bonbon cliché. Voilà, bon, c'est un check-it, c'est plus.
Ok, bon bah c'est tout pour la Bat Family. On va rester avec un titre dark pour conclure cette première partie d'essai avec toi, King Ed, qui nous parle d'Eye Vampire.
Ouais, Eye Vampire, je vous en parle presque à chaque fois. Et c'est parce que c'est un très bon titre. Et donc dans ce numéro, avec toujours l'équipe, la même équipe depuis le numéro 1, ça fait plaisir. Joshua Elf-Yalkoff au scénario et Andrea Sorrentino au dessin. On a les fameuses origines de Andrew Bennett, dont on avait déjà eu quelques petites bribes dans un précédent numéro, mais là on va beaucoup plus dans le détail. C'est assez sympa, l'écriture est chouette parce qu'ils ont vraiment tenté de faire un truc avec du vieil anglais, mais c'est pas mal fichu. C'est très une ambiance un peu romantique, mélancolique, gore par moment. Mais
c'est toi, tu lis pas assez de Thor ou Journey into Mystery, c'est pour ça que tu t'es pas habitué au vieil anglais. Nous, on
ouais,
est habitué
ouais.
Maintenant.
Mais là, c'est de l'anglais shakespearien. Et d'ailleurs, il y a. Bah,
c'est comme ça qu'il parle, hein, Thor. Il parle avec vraiment un anglais shakespearien.
Ouais. Mais là, il y a vraiment en plus ils nous ressortent carrément un sonnet de Shakespeare à la fin. C'est très joli, c'est un très beau sonnet en plus. Donc franchement pour moi c'est un bail. Cette série elle est vraiment géniale et de bonnes origines pour le perso. Voilà, bah, je vais pas en dire plus, mais c'est toujours d'aussi bonne qualité et toujours aussi beau en plus au niveau des dessins. Donc un bail.
Ok. On continue avec maintenant de l'indé et la nouvelle mini-série de Grant Morrison, dont on parlait il y a 2 minutes, accompagnée de Darick Robertson, c'est Happy. Sam, c'est quelque chose qui te tient à cœur.
Oui, on va le dire comme ça. Donc ce Happy qui raconte en fait les aventures, mais je lis trop de super-héros.
Oui, c'est plutôt les mésaventures. Là,
voilà, c'est de Nick Sachs, qui est un tueur à gages, un ancien flic, qui est sans doute l'une des pires ordures qu'on ait jamais vues dans un comic book, facilement.
Je sais pas. moi, franchement, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé le personnage.
Ah oui, mais il est marrant, mais bon, c'est quand même un gros affaire.
Je trouve pas que ce soit une ordure. Le mec, il est embouché pour faire un job, il le fait, point.
Oui, sauf que son job, c'est tueur à gages. Hein.
Oui, bah et alors ? C'est-à-dire, il fait son job de façon propre. Enfin, voilà. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que... La technique qu'il utilise pour faire le contrat que l'on voit au tout départ, c'est super inventif, c'est bien foutu quoi. Je trouve le personnage attachant quoi. Je trouve pas que ce soit une ordure, au contraire, il fait son job. Enfin, en même temps, tueur à gages, c'est déjà un métier où faut être un petit peu salaud. Donc,
est-ce qu'on peut le dire en fait le procédé qu'il utilise au début?
Oh, on va le révéler, ça donnera peut-être envie aux gens d'aller le voir.
Ouais. Donc en fait, au début, on a plusieurs tueurs qui justement sont à la poursuite de Nick Sachs, parce qu'ils exécutent un contrat eux aussi. Sauf que on découvre quand ils arrivent dans l'appart de Nick Sachs que c'est ce dernier qui les a engagés pour le buter. Pourquoi? Parce que lui aussi a un contrat sur eux et qu'il avait pas envie de se faire chier aller les chercher. Donc il s'est dit, je vais les engager pour me buter, comme ça ils vont venir chez moi, ce sera plus simple.
Bah voilà, moi je trouve pas que ce soit une ordure le mec. Au contraire, il aura simplifié le boulot.
Sauf que ça tourne mal, ce qui fait qu'il se prend quelques balles. Il fait une petite attaque, parce que le mec a quand même plus de la cinquantaine, une bonne bedaine et a quelques tendances alcooliques et de drogué.
Oui, donc, puis après avoir perdu, je sais pas, 3 litres de sang, c'est pas étonnant non plus.
Voilà. Il se retrouve à l'hôpital, sauf que le problème c'est qu'en tuant c'est les gars qui l'a buté au début de l'épisode, il aurait pu acquérir une information qui est recherchée par beaucoup de gens, sauf qu'en fait il n'a pas l'info. Donc il est un peu dans la merde, parce qu'il a une équipe de tortionnaires qui veulent maintenant se le faire. Sauf que c'est ça, c'est le premier degré, on va dire, de lecture. Parce que quand il est dans l'ambulance, on a la raison pour le happy.
Oui.
Faut pas être en révélé de ça.
Non, on va pas le dire, justement, mais en fait, ça vire au burlesque, tout simplement.
Voilà. C'est deux genres, en fait, différents, qui se rendent dedans.
Non, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment été la voir parce que je me suis dit, voilà. Darick Robertson, bon, Grant Morrison, je suis pas un super, super grand fan, vous le
Attends,
savez si vous écoutez.
Darick Robertson, un mot. Incroyable.
Ah oui, non, mais là, il est magnifique, quoi. C'est le meilleur de Transmet et le meilleur de ce qu'il a fait sur The Boys.
Ouais, sachant que sur The Boys, il avait beaucoup de personnages, donc en fait, j'avais l'impression souvent qu'il rushait pour arriver à tenir les délais. Là, il a eu le temps, et c'est vraiment lui, dans son style géré naturel, c'est-à-dire ultra détaillé,
ouais.
Il va dans tous les détails, c'est incroyable.
C'est tous les détails que l'on a dans Transmet, le côté comique en moins, on n'a pas d'affiches de malades sur les murs, etc.
C'est Transmet dans la première année.
Mais c'est vraiment, c'est impressionnant je veux dire, quand on regarde les deux premières pages, le visuel dans cette ville avec les flocons, etc., il y en a partout, t'en prends plein les yeux, c'est limite surchargé, mais ça reste lisible.
Ouais.
Et ça, c'est ça qui est, la petite subtilité par rapport à des dessinateurs qui vont trop en faire, c'est qu'il en fait beaucoup, mais ça reste totalement lisible. Et ça, c'est la marque d'un grand. Non, franchement,
respect, monsieur Robertson.
J'ai vraiment été voir parce que voilà, Grant Morrison et Darick Robertson en tandem, je me suis dit, bon, on peut pas rater ça, c'est mini en 4, on va au moins voir le premier. J'ai bien aimé, franchement, j'ai adoré le personnage principal. Je trouve pas que ce soit une ordure, malgré tout.
Si, moi, je trouve que c'est une grosse ordure. Hein.
Mais bon, enfin voilà, c'est un tueur à gages en même temps, hein. On en a vu d'autres. Il y a juste un truc qui m'a gêné, c'est que Morrison arrive chez Image, il sait qu'il a tous les droits, et donc il commence la page, quatrième case. Et il te marque deux fois le mot cunt, qui est quand même une des pires insultes qu'on peut faire
aux
États-Unis.
Hein.
Les fuck, etc., on est habitué, mais en fait là, il se lâche vraiment parce qu'il peut. Et je trouvais que c'était...
Ah oui, mais là, les fuck, alors j'ai fini de les compter.
Ah oui, t'as réussi à finir.
Oui, 70.
Voilà, bon.
Sachant qu'il y a 22 pages.
Il y a 24, hein, il y a 24 pages, je crois.
C'est mieux que Bendis sur Powers.
C'est presque comme le sketch.
Je crois qu'il a jamais autant atteint... Je crois que Bendis, même sur Powers, n'a jamais atteint un tel niveau de fuck.
Oui, mais enfin bon, ça c'est du langage courant, le fuck maintenant, je veux dire, c'est une virgule ou un point d'exclamation, ouais. Enfin, ça devient de la ponctuation. Non, ce qui me gêne vraiment, c'est le fait qu'on se dise, on est libre, alors je vais en mettre plein les yeux et je vais mettre la pire insulte qu'on puisse faire, cunt, tout de suite et deux fois de suite. C'est-à-dire que le personnage dit, tel mec est un cunt, et l'autre qui dit un cunt, juste à côté. On le place deux fois. Je trouve que c'est vraiment faire du vulgaire parce qu'on peut se permettre de faire du vulgaire, ce qui était aussi un peu mon reproche sur Garth Ennis quand il avait commencé The Boys par exemple, qui était de vouloir trop en faire parce qu'il avait la possibilité. Voilà.
Je sais pas. En fait, moi, ce que tu me dis, ça me rappelle un peu ce que les premiers épisodes de Savage Dragon, quand Eric Larsen a lancé chez Image, et que dans les premiers épisodes, il se lâchait côté violence et.
C'était graphique, c'est sûr. C'était pas vulgaire, c'était graphique.
Parce que il était libre. Il faisait pour la première fois depuis des années. C'est pareil pour Morrison, ça fait des années qu'il est chez DC, ça fait depuis 2004-2005, donc ça fait 7-8 ans, je crois que c'est sa plus longue présence chez DC jusque-là. Je crois que, en plus, il a quand même traité des personnages où il pouvait pas trop se lâcher, comme Batman ou Superman. Voilà, avoir des fucks dans Superman ou Batman, je crois pas qu'on est prêt à
ouais,
voir
mais
ça
tu
aujourd'hui.
Vois, honnêtement, moi je serais prêt à l'avoir tant que c'est pas surusé comme là, qu'il n'y en a pas 70 dans un comic de 20 pages. Mais je veux dire, bon, Superman qui balance un fuck, limite ça serait pas choquant, mais en tout cas tu regarderais ça, tu ferais ouf. Mais Batman, vu qu'il traîne avec la pire pègre de Gotham, ouais. Que les bandits qu'il essaie d'arrêter lui jettent un tas d'insultes à la gueule. Bon, ce serait pas trop gênant, même que lui, un petit peu énervé quand il veut interroger quelqu'un parce qu'il y a une gamine qui est en train de crever quelque part et qu'il faut absolument qu'il la retrouve, qu'il arrive et qu'il secoue le mec en disant « tu vas me le dire, putain ». Bon, ce serait pas gênant, tu vois, moi ça me choquerait pas des masses. Il ouais. Bon, y a des personnages comme ça qui sont un peu plus joviaux, ou jovial, je ne sais pas. j'ai un doute sur le... Enfin voilà, c'est des personnages plus bisounours, on va dire, ce serait plus gênant, quoi. Flash qui arrive et qui sort une litanie d'insultes à grande vitesse... Je sais pas, ça me choquerait un peu peut-être. Bref.
Voilà.
En tout cas, c'est un très bon premier numéro. Cependant, ouais. Moi, c'est juste ma petite, mon petit côté, voilà, c'est peut-être un peu too much. Cependant, c'est un très bon numéro. J'ai vraiment envie de voir la suite. Et puis voilà, ce retournement de situation avec le personnage de Happy, c'est juste énorme.
On sait pas trop d'où ça vient, donc c'est vraiment bien. Non, moi, j'ai bien aimé, en fait. Hein. J'ai bien aimé.
Oui, c'est bien, c'est très très bon. Donc, un gros gros bail, très bonne découverte. Pas mon coup de cœur de la semaine, mais ça aurait pu.
Bah, idem. D'ailleurs, on y arrive à mon coup de cœur de la semaine.
Oui, ton coup de cœur de la semaine.
Donc c'est le Invincible 95, à la grande surprise générale, j'en suis sûr. Donc toujours Robert Kirkman au scénario, Corey Walker et Ryan Otley au dessin, donc ils continuent à se partager le boulot, sachant que Ryan Otley sur celui-là fait pas grand-chose, puisque en fait depuis quelques épisodes, la série Invincible est partagée entre des flashbacks de la vie de Monster Girl et Robot dans la dimension Flaxan, et sur les événements présents qui arrivent sur Terre. Donc en fait les événements présents sont dessinés par Ryan Otley, et là on a que 4 ou 5 pages dans le présent. Donc, effectivement, c'est, on va dire, c'est un relâche pour lui, je pense, dans la perspective du numéro 100, qui sera sans doute un numéro un peu plus gros. Donc, on va lui laisser un peu de temps pour bosser. On va le dire comme ça.
C'est marrant parce que là, ça te gêne pas qu'il délaye.
Ça me gêne pas. Ce qui devrait me gêner, parce qu'en fait, en plus, le personnage d'Invincible, même Mark Grayson, qu'on voyait plus beaucoup dans les épisodes précédents, là, on le voit carrément plus. Il n'apparaît pas du tout dans l'épisode, et même son remplaçant apparaît sur deux cases. Et pourtant, ça me gêne pas, parce que l'histoire est excellente. C'est-à-dire, à la fin du dernier épisode, alors je vais un peu spoiler, j'en suis désolé, mais c'est l'épisode qui est sorti le mois dernier, on apprenait que le chef de l'invasion Flaxan était en fait le fils, soit de Monster Girl. C'était un peu la grosse révélation, et là, on sait de qui c'est l'enfant. On sait ce qui est arrivé dans la dimension Flaxan, on apprend tout, et on apprend une certaine révélation sur Monster Girl, qui manifestement, quand elle se transforme en monstre, n'est plus vraiment girl.
Ouh là là, ça commence à être bizarre, ça. Moi, ça me fait poser plein de questions. On n'a pas malheureusement pas le temps de traiter, creuser. Mais c'est vrai que là, j'ai plein de questions qui me viennent.
Oui.
Mais c'est mieux. Pas tant le fait qu'elle soit plus girl, hein. C'est plutôt le fait que ce soit leur gamin. Enfin,
qu'elle change
bizarre.
De genre, en fait. Elle change de genre. Voilà. Donc, la fin de l'épisode annonce qu'en fait, Kirkman a raconté son histoire sur cette invasion Flaxan. Maintenant, il veut clôturer. Quand même, ça fait 4-5 épisodes donc on est dessus. Donc, je pense qu'il veut, en finir. Tant mieux. Donc, ça annonce un prochain épisode bien rythmé. Cet épisode-là est vraiment génial. Et vraiment, voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Encore une fois, c'est vraiment bon. Voilà. Je sais pas trop comment le dire mieux que ça. C'est vraiment très très bon.
Ok. Bah écoute, que dire de plus, lise-le.
Ouais.
Un coup de cœur de Sam, ça mérite au moins le détour pour vérifier si c'est bien vrai. Oui, parce que je remets ta parole en doute, monsieur. Moi, je suis comme ça.
Je suis choqué dans mon petit cœur sensible.
Et ben, on va passer d'un personnage qui vole, qui est super fort et qui est invincible, à un autre personnage du même acabit, mais cette fois-ci chez Marvel. Et du sexe féminin. C'est Captain Marvel numéro 4 qui est sorti cette semaine. Toujours écrit par Kelly Sue DeConnick et dessiné par Dexter Soy, qui est cette fois-ci accompagné de Álvaro Nuevo pour les pages backup à la fin. On reprend là où s'était arrêté l'épisode 3, c'est-à-dire face à ces espèces de vaisseaux Kree qui se sont fait, je sais pas, un peu Power Rangers, Megazord, qui se sont tous assemblés en un énorme vaisseau.
Ouais.
On va voir la lutte de Carol face
ça, l'idée.
À cette espèce de vaisseau géant et qui essaye en même temps de porter secours à ces banshees qu'elle avait rencontrés dès le premier épisode quand elle était retournée dans le passé. Bon, l'épisode est sympathique, les dessins de Dexter Soy sont toujours très bons. Il affine son style, c'est pas pour me déplaire, mais en même temps j'aimais bien son côté un peu brut. Donc là c'est un peu plus, enfin c'est pas que c'est rond, mais je sais pas comment l'expliquer, c'est plus affiné. C'est très joli aussi, mais je préférais peut-être le côté un peu plus brut du dessin qu'il avait sur le premier. L'histoire va arriver à son terme là, on va passer à un nouvel arc, et Carol va réussir à quitter cette période, parce que rappelons qu'elle était coincée en 1943 quand même. Elle va quitter le 1943 pour se retrouver où, mais, et surtout quand. C'est ça l'intérêt. Donc, je vous rassure, elle n'est pas retournée dans le présent.
Mais,
toute cette histoire avec la pilote qu'on a là depuis le départ, qui était son idole de jeunesse, ce n'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment un lien avec toute cette histoire, encore une fois, et les voyages de Carol dans le temps.
C'était un peu ma crainte, que ce soit vraiment que ce soit gratuit, en fait. Donc,
Non, c'est lié, c'est vraiment très lié. C'est plutôt pas mal, moi j'attends de voir le prochain épisode, voir comment ça va repartir. Bon, c'est un bon check-it, quoi. C'est pas au niveau du premier, honnêtement, la surprise du premier était très bonne. Ça baisse un petit peu, mais ça reste quand même sympathique à lire, c'est un bon check-it. On va continuer avec le Ultimates numéro 16, Kinghead.
Oui, Ultimates avec Sam Humphries au scénario et Luc Ross au dessin. Bon, bah la cover, on voit Captain America, la Bible, est en train de prêter serment parce qu'il est devenu le président des États-Unis. Cette fameuse...
Oh, le méga spoil.
Ouais, ah, ça date de la semaine dernière. Alors donc, le...
Vous avez eu une semaine pour lire le 15, tant pis.
Bon, en même temps, c'est sur la cover.
Oui, non mais donc, oui, c'est sur la cover. Non mais c'est surtout le fait de sortir des épisodes de semaine en semaine, quoi.
Ouais. Et alors du coup, moi je trouve que ça se ressent d'un point de vue artistique parce que ça change tout le temps les dessinateurs et ça m'énerve sur ce titre. J'avais vraiment adoré au départ quand on avait une unité graphique et c'est vrai que ça fait depuis 10 numéros où je trouve j'en ai marre que ça saute d'artiste en artiste. Surtout que là, Luc Ross, je trouve, fait pas un travail exceptionnel, même si Sam a trouvé ça pas trop mal. Ouais, mais moi c'est plus toujours le scénario qui que je trouve plutôt bon, même si le côté Captain America président, c'est un peu cheesy. Après la façon dont il gère la crise, c'est pareil, c'est un peu les bisounours, mais bon, j'ai bien aimé le retournement de situation à la fin, je rends à Sam ce qui est à Sam, puisqu'il il avait déjà deviné ça depuis plusieurs numéros, donc je vais pas révéler ce que c'est, mais bien joué Sam. Donc voilà, ça m'a plu et il me tarde de voir la suite à ce niveau-là. Toi Sam, t'en penses quoi?
Moi j'ai bien aimé aussi, en fait j'ai bien aimé toute la première partie en fait où on voit Cap qui reprend le contrôle des États-Unis peu à peu, c'est-à-dire qu'il va casser des gueules et il règle des problèmes politiques ultra complexes avec un point dans la gueule, c'est
voilà, ouais.
C'est toujours marrant de voir ça dans les comics, c'est les problèmes super complexes, non un point dans la gueule c'est réglé.
Et combien de fois ça ferait du bien, hein?
Ouais.
Franchement je suis désolé, mais il y en a qui ne méritent que ça. Hein.
Bon. Et en fait c'est la deuxième partie où j'étais un peu plus déçu parce que comme Kinghead l'a dit, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, j'ai pas été surpris, donc voilà. Donc c'est quand même bon bail, parce que c'est très agréable à lire. On se marre à nouveau en lisant Ultimate, ce qui faisait un moment qu'on se faisait chier.
Moi, c'est un petit bail. J'aime bien le scénario, mais je suis toujours aussi déçu par les dessins.
On va passer à mon coup de cœur de la semaine, et c'est le Incredible Hulk numéro 14. Ah oui, j'en ai fait mon coup de cœur cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi. C'est scénarisé par Jason Aaron avec Refté Paolo, au dessin. À chaque fois, je me trompe. Je sais pas pourquoi. Je veux l'appeler Paolo et non pas Palo. Donc, à la fin du dernier épisode, on avait laissé Hulk et Banner réunis qui décidaient d'aller s'en prendre à celui qui est l'instigateur de tous leurs tourments, qui n'est autre que Docteur Doom, bien sûr. Le petit méchant depuis le départ.
Bien que ce soit un peu plus compliqué, en fait.
C'est plus compliqué que ça, effectivement. Mais on commence avec une première page qui m'a vraiment surpris, parce que je trouvais que c'était absolument pas raccord avec la personnalité de Doom. On voit Doom aller engager des gens pour tuer Hulk. Et surtout Banner. Mm. Et là, je me dis, mais attends, quand même, Doom, il peut pas le faire lui-même. Quand même, c'est Docteur Doom, quoi.
Voilà. Il veut pas se salir les mains.
C'est le monarque de la Dvérif, enfin, c'est pas n'importe qui quand même. Pourquoi lui il va pas se battre face à Hulk? Et bien sûr, il y a une explication qui est dedans. Et à partir de là, je me suis marré, mais d'une force. Je croyais que j'allais en pleurer à la fin, tellement c'est too much. C'est vraiment, mais il y en a, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que Hulk se retrouve face au Mad Squad, hein, qu'on avait vu à débarquer dans le dernier épisode. Donc, cette fameuse Victoria Von Doom, je crois que c'est son nom. Qui n'a absolument aucun lien avec le Docteur Doom, bien sûr, comme elle aime à le rappeler.
Qu'elle lit dans le deuxième épisode.
qui passe son temps à lui faire des avances. Enfin, mais ça en va dans tous les sens. On a des Doombots qui se font torturer, qui se font pipi dessus. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Je vous assure. Mais c'est vraiment très très drôle.
Des robots qui font pipi. Oui, d'accord.
Ah oui, non, mais
c'est par leur liquide de transmission.
C'est... voilà, moi franchement, je me suis vraiment éclaté avec ce numéro. C'est complètement fou. Et alors, on a une fin qui est encore, mais au-delà de la folie. Et vraiment, j'ai hâte de lire ce dernier épisode qui conclura cette histoire. Parce que vraiment, il nous a amené de bout en bout. On a commencé avec un truc un peu sérieux, avec Hulk qui était séparé de Banner, etc. Et plus ça avançait, plus Jason Aaron nous faisait du comique. Et là, c'est vraiment de la franche rigolade. Mais ça reste toujours très bon et très bien tenu. Donc moi, vraiment, un gros coup de cœur, un énorme bail. Alors, je sais que toi, Sam, par contre, tu n'as pas forcément le même avis.
Oui, je suis un peu plus réservé. En fait, l'évolution du titre en lui-même ne m'étonne pas, puisque Jason Aaron avait confié que la manière dont il écrivait Wolverine and the X-Men avait complètement changé sa manière de voir et d'écrire. Plus il écrivait le titre, plus il avait envie d'aller dans les trucs délirants, des trucs drôles. Et dans Wolverine and the X-Men, je trouve que ça fonctionne très bien. Effectivement, on a ces 150 idées par case, ça n'arrête jamais, on se marre vraiment de page en page. Et sur Hulk, je trouve que ça fonctionne moins. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait moins rire, alors qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments comiques.
C'est justement je pense que c'est le côté too much du personnage, va dire Hulk, enfin, qui peut se mesurer à Hulk, rappelez-vous, dans AVX 11, hein, sorti la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas, ou c'était il y a peut-être déjà 2 semaines.
Il y a deux semaines, ouais.
Il y a 2 semaines, oh là là, ça passe tellement vite. Du coup, enfin, même Captain America vient demander à Hulk, s'il te plaît, viens nous aider, quoi, t'es trop balèze, on a trop besoin de toi, en fait. Mais donc voilà, le personnage est tellement puissant que lui offrir des menaces qu'il peut combattre, ça devient difficile. Et il a réussi à tourner ça de manière à être drôle. Et c'est ce qui me plaît, parce que généralement Hulk, c'est vrai que j'ai du mal à accrocher parce que je trouve le personnage un peu fade. Là, en tout cas, il était très bien écrit par Greg Pak, j'avais très peur avec Jason Aaron. Et non, vraiment un run qui pour moi restera dans les annales.
Ce sera lié à un TPB.
Ouais, il y aura 3 TPB, je pense, et ce sera très bon, quoi. C'est qu'un check-it hein, pour toi, Sam, c'est ça?
Oui, ce sera un check-it. C'est marrant, mais pas aussi drôle que ça devrait l'être, pour moi.
On va continuer avec du grand délire.
Oui, tout à fait. Tout à fait, du grand délire, du grand n'importe quoi avec Space Punisher numéro 3. J'ai déjà parlé des deux premiers numéros, donc Frank Thierry au scénario et Mark Texera au dessin, toujours ces peintures un peu années 80. Un bail. C'est juste,
c'est tout.
C'est tout. Presque, ouais. Non, mais c'est énorme. Par contre, je crois qu'on disait, il y aura peut-être une suite. Non, c'est pas possible. il y a trop de personnages qui meurent. La première image, c'est on a des tas de clones aliens d'Hitler qui se battent contre le Punisher. C'est juste trop bien. C'est la planète du Red Skull et c'est trop drôle. Et on a la meilleure apparition de Jarvis dans un comics depuis très très longtemps. Donc achetez-le, c'est juste trop bien. Voilà. Un bail.
Putain. Oh, c'est tout, mais alors putain, ça donne envie en tout cas.
Après, attendez peut-être sinon le petit TPB, il y aura quatre numéros, mais
ou la version française, je pense que ça sortira en France.
Bah, j'espère, mais c'est vraiment super bien. Il n'y a aucune limite. Enfin, c'est vraiment pour mature. Hein. Là, c'est vraiment pour les adultes. C'est très vulgaire, c'est très violent, c'est dégueulasse, c'est fun et franchement, c'est cool.
Il passe en adjectif comme dégueulasse à fun, c'est juste énorme. Ouais. Et ben d'un Punisher, on va rester, on va passer à un autre Punisher, le classique.
Oui, pas drôle. Pas drôle cette fois-ci. Scénarisé par Greg Rucka, dessiné par Marco Cecchetto. Donc là, on est dans un esprit mais complètement différent. C'est vraiment le Punisher plus traditionnel, on va dire, mais façon Greg Rucka. Donc on poursuit en fait sur le cliffhanger sur lequel on nous avait laissé la fin de l'épisode 15, qui était assez énorme, puisqu'en fait le dernier survivant de l'organisation The Exchange, que le Punisher est je sais pas si on peut dire la jeune comparse qu'il a enrôlé, le sergent Alves, arrivait à les piéger, c'est-à-dire que il a tiré la police dans un piège en butant tout le monde et en faisant en sorte que plusieurs officiers de police soient en fait victimes d'un feu croisé. Et en fait, la dernière page s'est terminée sur Alves qui butait un des flics. Qu'on voyait au début, c'est le duo de policiers. Donc un des deux.
Duo Seven, ouais.
Ouais. Donc l'un des deux mourait, je peux pas vous dire qui. Et donc en fait, on poursuit juste là. Évidemment, tous les flics de New York, cette fois-ci, la marge de manœuvre qu'ils accordaient au Punisher, parce que beaucoup considèrent qu'en fait, ils nettoient la place, quoi.
Oui, c'est une nécessité, malgré tout, c'est un mal nécessaire, quoi.
Voilà, et là, il considère en fait qu'il a franchi la ligne, même si c'est pas de sa faute, là, qu'il a franchi la ligne, et donc il a tous les flics de New York à ses trousses. La conclusion est vraiment très très bonne, je vais pas vous la révéler, mais ouais. ça tourne à nouveau autour du sergent Alves, qui est vraiment l'un des points centraux de son intrigue depuis le début, mais c'est vraiment dans l'esprit du Punisher. Encore une fois, le Punisher ne parle pas beaucoup, tant mieux, parce que chaque fois qu'il parle, c'est précis comme une arme, quoi.
J'ai envie de dire que le défaut de Marvel ces derniers temps, ça a été comme de nous faire des séries courtes avec beaucoup de relaunch et le Punisher n'échappe pas à la règle comme Hulk avec le Marvel Now. Mais finalement, si c'est pour avoir des runs de très bonne qualité, c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir des runs courts après tout.
Ouais. Donc ça se poursuit ensuite dans la mini Warzone. On comprend la conclusion, la transition, vous comprenez pourquoi, puisque le Punisher est poursuivi par toute la police de New York. Donc évidemment, les super-héros qui...
je sais pas on si va appeler ouais, la super voilà. Police, quoi.
Voilà, comme ils n'arrivent pas à le choper, ça va tomber sur eux, quoi.
On va revenir chez DC pour terminer cette émission avec le coup de cœur de King Ed.
Oui, Red Lantern numéro 0. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Red Lantern.
Tu m'étonnes. Et juste raison.
scénario Peter Milligan et au dessin Ardian Sayaf. Déjà, c'est super beau. La première page est sublime et tout le reste du comics l'est également. c'est vraiment un numéro zéro dans le sens où on a toutes les origines, toute l'histoire de d'Atrocitus. Et c'est passionnant, c'est vraiment bien raccord avec ce qui avait été écrit jusqu'à présent sur le personnage.
Enfin, en même temps, ils avaient déjà les origines.
Oui, mais là, on a ce qui s'est passé avant qu'il soit parmi les inversions, et on a le retour des inversions qui étaient dans les origines de Rebirth, et puis même dans le vieux numéro de Alan Moore. Mais là, on a tout ce qui s'était passé avant, parce que avant, justement, Atrocitus était sur une planète où il avait des enfants, il était super gentil, il était amoureux, il était aimant. Et voilà, après il y a la rage qui s'exprime et on voit d'où ça vient, on voit pourquoi il en veut autant aux gardiens que ça.
Ouais, mais c'est vrai que je me disais mais putain, j'ai déjà vu ça il y a pas longtemps, mais effectivement, j'ai regardé la série animée Green Lantern et t'as toutes les origines d'Atrocitus dedans. Alors je sais pas si elles sont raccord, je l'ai pas lu, mais c'est possible qu'elles soient raccord.
Alors en tout cas, il y a un lien avec les Manhunter et c'est vraiment pas mal.
Ça on le savait déjà que les Manhunter avaient détruit sa planète. Donc,
et là tout est remontré et puis c'est surtout en fait le retour des inversions qu'on sait parce qu'on les avait vues à la fin du numéro 12 qu'elles étaient là, elles étaient revenues à la vie et qu'elles allaient essayer d'en faire baver à Atrocitus. Et moi je sais pas, je les adore, elles sont dégueulasses, c'est super moche, c'est des aliens ultra puissants et je sens que ça va être super cool. Franchement, un très bon numéro, ça me fait plaisir et il me tarde de lire la suite.
Alors moi, je vois quand même un lien dans les choses que tu adores, hein, Space Punisher et Red Lanterns. C'est dégueulasse, donc tu aimes. Donc je pense que si on veut te faire plaisir, vraiment, il faut t'offrir quelque chose de super crade. Je sais pas, moi, un chandail avec des rennes.
Il y a quand même beaucoup d'amour dans ce comics, puisque c'est quand même un père et un mari qui est très triste. Et il est très rageux après.
Il est rageux de la rage, c'est ça?
Voilà, il est rageux de la rage. Et
c'est ça, le genre de mec qui rage quit, quoi, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça, il rage quit.
Ben, on va passer à un autre truc qui donne la rage, en général, puisque c'est malheureusement, Hawkman.
Alors, Hawkman, ben, je vais aller un petit peu plus vite, mais finalement, c'est pas de la bouse. Donc, c'est le dernier numéro de Rob Liefeld chez DC.
C'est pour ça que ça donne la rage.
Ouais, au scénario. Et au dessin, on a toujours Joe Bennett, qui lui fait un super beau travail. C'est du galactique, c'est les origines d'Hawkman, c'est l'introduction de Thanagar dans l'univers DC. On voit d'où vient l'armure de Enhanced Metal de Hawkman. C'est pas mal. Franchement, ça pose de bonnes bases. On voit que les Thanagariens étaient en guerre contre la race de Lobo et contre les Kérubines, donc ils essayent de faire le lien aussi avec l'univers Wildstorm. C'est bien fichu, c'est intéressant et c'est une bonne suite. C'est à la fois des origines et en même temps on comprend ce qui va se passer après le numéro 12. Donc un check it et c'est carrément mieux que la bouse qu'il avait fait sur Deathstroke.
On va continuer avec un autre personnage qui cette fois est beaucoup mieux, c'est The Flash. C'est toujours écrit par Francis Manapul et Brian Buccellato, avec des dessins de Francis Manapul et des couleurs de Brian Buccellato. On va revenir sur l'origine de Flash. Alors l'origine de Flash, on la connaît, hein, coup classique du mec qui se fait électrocuter à côté de ses produits chimiques, etc. On va se rendre compte que ça a eu des conséquences cette fois-ci, contrairement à la première origine. C'est-à-dire que le mec est resté comme dans un lit d'hôpital, entouré avec des bandelettes, etc., parce qu'il était brûlé pendant un petit moment. Rappelez-vous, la première origine, c'est « Oh, je me fais électrocuter avec la foudre et je me fais brûler par des produits chimiques, mais tout va bien. » Tout va bien, le lendemain, je vais au boulot, comme si de rien n'était.
mais qu'est-ce que t'as foutu dans le labo hier soir, Marie?
On voit son enfance, avec notamment le meurtre de sa mère et son père qui est en prison. Il va continuer de voir son père tous les ans à l'anniversaire de la mort de sa mère, toujours pour le rassurer en disant « Voilà, t'inquiète pas, je continue de chercher. » Parce que son père lui avait dit, on revoit cette scène au moment où il est emmené par les flics, que c'était pas lui le coupable, qu'il était innocent. Et donc il continue de chercher, malgré que son père lui dise à chaque fois « Non mais continue avec ta vie, laisse tomber quoi. Tant pis, je vais mourir en prison, c'est pas grave. » Enfin bon, c'est pas grave. Disons qu'en tout cas, il veut que son fils aille de l'avant et arrête de bloquer là-dessus. Et on va avoir donc des éléments, on va voir comment il a créé son costume. Enfin, c'est passé très vite ça d'ailleurs, un peu trop vite peut-être. Et il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué dans ce numéro. On va voir son premier cas. Sa première arrestation consistera à des bandits qui ont attaqué une banque, et notamment un certain Daniel West.
Ah ah.
Ouais, exactement.
Petit clin d'œil au lecteur.
Petit clin d'œil, donc. Peut-être qu'il y a un Wally West dans l'univers, peut-être que c'est son père, etc.
Ah, il y avait déjà Iris West, hein, donc...
Oui, mais bon. Là, en tout cas, encore une autre piste. Et surtout, le meurtre de sa mère, certains éléments me laissent à penser Alors ça, c'est totalement de la supposition, donc ce n'est vraiment pas du spoiler, mais certains éléments me laissent à penser que peut-être ce serait pas, elle serait pas morte et que ce serait simplement un maquillage.
Mystère, mystère.
Peut-être. En tout cas, en lisant entre les lignes, moi c'est ce que j'arrive à comprendre. Je ne suis pas certain, c'est véritablement de la supposition. Mais bon, en tout cas c'est un très bon numéro, encore une fois les dessins sont sublimes, les couleurs sont magnifiques, tout est beau, c'est un gros bail pour moi.
Ça serait un peu à l'encontre de ce qui se passe à la fin de Flashpoint, mais bon, si elle est pas morte.
En même temps, rappelle-toi que dans Flashpoint, il y a quand même des gros problèmes, étant donné qu'on sait que Barry Allen est censé se rappeler de l'autre univers.
Mais ça il l'oublie au fur et à mesure, il l'oublie très rapidement.
Il l'a oublié, ouais. Moi, j'ai pas oublié, par contre.
Il est censé avoir trois continuités dans la tête.
Ouais.
Mais c'est trop, ça fait trop pour lui, ça fait trop.
Il n'y en a fait aucune mention jamais, donc bon. Allez, on va continuer avec un mec qui a les cheveux de feu, et c'est Firestorm. Je sais pas pourquoi t'as lu ça.
tu sais que j'ai lu les 12 premiers, et c'est pas terrible, mais c'est pas non plus hyper mauvais.
Putain, moi je me suis arrêté au premier, c'était un chier.
Mais je le conseille pas. Hein. Mais par contre, là, c'est vraiment super bien. Ce numéro est pas génial. Hein.
J'ai lu les 12. C'est pas trop mal, mais je le conseille pas quand même.
C'est Joe Harris au niveau du scénario. C'est l'équipe a changé.
T'as décanillé Sam, ça y est.
Les dessins, c'est Ildiraj Sinar qui fait du très beau boulot.
Oui, par contre, lui, il est très très bon.
Mais alors là où ils ont fait très fort, c'est à la fois un numéro zéro dans le sens où c'est les origines de Firestorm et c'est en même temps la suite des 12 premiers numéros. À la fin des 12 premiers numéros, on fait comme si ça n'avait pas existé. Maintenant on se retrouve.
Excuse-moi, mais si j'ai bien compris, ça veut dire qu'en gros, faut oublier tout le run d'avant.
Bah, disons que c'est pas qu'on peut l'oublier, mais s'il y a pas besoin de lire le run d'avant, il suffit de lire le numéro zéro pour continuer la suite. Parce que le truc, c'est que là, avant, on avait des Firestorms complètement bizarres, face au Bioman, où il y avait 50 000 Firestorms sur la Terre, dans chaque pays. Et là, maintenant, ils sont tous morts. Et il reste plus que Ronnie et comment il s'appelle l'autre? Et Jason. Et là, en fait, on retrouve le vrai Firestorm, celui avec, où il fusionne pas pour donner une Fury ou un...
Oui, non, parce que c'était juste de la merde, ça, quand même. Hein.
Et maintenant, on a le Firestorm avec juste la petite tête derrière, un peu, qui parle et tout, et qui lui dit, il faut que tu changes les molécules et tout, et donc c'est le vrai Firestorm qu'on retrouve. Et donc maintenant, on peut se dire, peut-être qu'on va avoir des bonnes histoires. Donc c'est un bon numéro zéro.
Moi, je te donne la véritable raison. On s'est rendu compte que c'était pourri, que ça allait à l'encontre de tout, que les gens n'achetaient pas. En fait, ils voulaient le virer dans cette dernière vague, mais ils se sont dit, il y a d'autres titres à supprimer avant. Donc...
Et justement, ils ont trouvé une idée pour comment essayer peut-être de sauver le titre. Donc faire un faux numéro zéro et, et ça part sur de meilleures bases.
En gros, ils ont dit, bon, toi, je te préviens, t'as 4 mois pour relever la barre parce que sinon, tu te dégages.
Ah, mais ça, c'est clair. C'est
prochaine
clair.
Vague, ils sautent. Quoique, s'ils veulent lui laisser le temps, il vous sautera peut-être à la vague d'après, mais donc dans 8 mois.
Donc pour moi, c'est un check-it. Parce que si vous aimez le personnage de Firestorm, là, vous retrouvez le vrai Firestorm, à peu près.
Ok. Et bah, du feu, on va passer à la flotte. Hein. On va faire les 4 éléments. Mmh. T'as vu ces transitions qui sont magnifiques quand même. Tout est pensé à l'avance. Avec le Aquaman numéro 0, bien sûr, scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Evan Reese et Joe Prado. On va commencer avec 3 premières pages qu'on avait déjà vues. Hein. Ça commence bien. Les pages du papa à l'hôpital, et puis du petit qui saute dans l'eau. Enfin, du petit qui était pas si petit.
Perçu par la presse.
Voilà, des pages qu'on avait déjà vues. Après, on a toute une introduction qui est très cinématographique, ça c'est super bien réalisé. On a vraiment l'impression d'être dans un film.
C'est très très lente.
En même temps, elle correspond avec
l'apparition du générique, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et puis, elle correspond avec la scène, puisqu'il s'enfonce dans les eaux, il va essayer de trouver Atlantis. Oui. C'est normal que ça donne ce côté très lent. Mise en scène superbe, après une énorme splash-page magnifique.
Et coup de chance quand même, il tombe sur les deux personnes qui savent où il peut trouver Atlantis. Enfin, ils connaissent un mec qui sait où peut se trouver Atlantis. Mais quel bol, ce Aquaman, quand même.
Ouais, pour moi, le problème, c'est quand même que les 8 premières pages, si on prête pas attention au dessin, on les tourne en environ 25 secondes .4. En prenant le temps de pas les froisser, hein, pour pas abîmer son corps. Il y a absolument aucune bulle, quasiment, quoi. Par contre, après, ça parle, ça parle en bien.
Pour rien dire.
C'est plutôt pas mal.
On a des éléments qui auraient quand même pu être compressés, je pense. Hein.
Ouais.
Ça aurait pu aller plus vite.
Oui, mais en même temps, c'est tout Aquaman qui aurait pu aller plus vite, moi je dis. Ouais. Bon.
Moi, mon problème personnel principal avec cet épisode, c'est que la dernière page, ça aurait dû être la page 8. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on aurait dû commencer. Ça s'arrête au moment où ça devrait commencer.
Oui, Aquaman va trouver la personne qui peut le renseigner sur ses origines, et c'est le retour du personnage de Vulko, qui était le conseiller d'Aquaman.
Vulko Citron.
Tu vas gagner la bunny de la semaine.
Ouais, ouais, bah, il est pas là, il faut bien remplacer.
Et oui, il y en a qui se prélassent en vacances. La chance, quand même. Vulko, qui est aussi un garage automobile.
Merci pour cette précision.
Oui, donc c'est le personnage de Vulko qui, dans l'ancienne continuité, était le conseiller d'Aquaman quand il était roi d'Atlantis.
Donc là, on a toute la continuité passée d'Aquaman qui nous est révélée.
Et
sa mère, effacée. Son père, sa frère, ses sœurs.
Bon, on va pas trop en révéler parce que c'est quand même intéressant à lire. Bon, le seul problème, c'est que exactement comme tu l'as dit, là où ça devrait commencer, ça s'arrête et on se dit, bah oui, mais le numéro 0, on ne sait toujours pas qui a coulé Atlantis. Mais c'est sympa quand même, donc je sais pas.
Oui, c'est toujours sympa.
Je sais pas, encore une fois.
C'est vrai, qu'on a une moitié d'épisode.
On peut dire que c'est un énorme bail dans le Comic City Zero quand on parle du TPB, enfin de l'équivalent du TPB Aquaman. Ouais.
Parce qu'on a six épisodes.
Maintenant, quand on a qu'un seul épisode, ça donne toujours un goût de trop peu, quoi. Donc, un check-it bah, plus.
Le problème, c'est qu'on a un demi-épisode, en fait. On a un demi-épisode.
Hein, par rapport aux autres épisodes, ouais. Par rapport à ce que devrait être un vrai comic, ouais. Donc, un check-it plus, ouais, voilà. Je peux pas mettre un bail à ça.
C'est un très bon demi-épisode.
C'est très bon, mais honnêtement, il manque quand même quelque chose. Donc, check-it plus.
Je suis d'accord, c'est un bon check-it pour un très bon demi-épisode.
Alors on va terminer avec toi Kinghead.
Le dernier élément, l'air.
Oui voilà, bah bravo. Alors ça c'est beau, ça je l'avais pas pensé donc c'est très beau. C'est le Superman Zero.
Avec Superman, donc avec l'arrivée de Scott Lobdell sur le titre, donc qui aura été très prolifique sur ses numéros zéro, et de Kenneth Rocafort au dessin. Donc dans ce numéro zéro, qui est pour moi une très bonne surprise. Nous avons en fait l'histoire de Krypton. Alors ça, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, encore Krypton, on s'en fout, pourquoi on voit pas Pa et McKent et compagnie, machin ?»
Sauf qu'ils sont morts, on s'en fout.
Ouais, déjà. Sauf que en fait, là, ils posent pas mal de choses intéressantes sur la mythologie kryptonienne. Ce qu'ils ont essayé de faire là dans le numéro 0 entre Superboy et Supergirl. Ouais, mais à chaque fois, ils enrichissent tout ça. Et surtout, ils ont rendu le personnage de Lara, la mère de Superman, qui jusqu'à présent était juste la nana qui pleure et qui met son enfant dans une capsule. Ils l'ont rendue super classe, puisqu'elle est aussi intelligente que son mari, sauf qu'elle, elle a appris la science à l'académie militaire, et donc elle sait se battre. Et donc, on comprend un peu mieux pourquoi peut-être Clark est attiré par les femmes fortes. Donc... c'est assez classe. On a l'introduction.
Pour moi, j'ai trouvé que c'était un poil too much.
Précise quand même, femme forte, pas, enfin, forte oui. D'esprit.
Non, forte, voilà. Forte d'esprit.
Pour moi, c'était un peu caricatural. Pour
moi, moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa.
J'aurais apprécié le fait qu'elle soit aussi intelligente que Jor-El. Je crois que c'était déjà établi parce que c'était déjà une scientifique dans l'ancienne continuité. Ça allait. Mais bon, la scène où elle révèle qu'elle a des talents au combat.
Moi, j'ai trouvé ça fort.
C'est très caricatural, hein. Franchement, ouais. C'est Scott Lobdell qui essaye de, j'ai l'impression de rattraper la merde qu'il avait faite avec Starfire, hein. C'est surtout ça, je pense.
Ah, bah, c'est vrai que c'est un peu le contrepoint, oui, de Starfire qui,
Oui. Je crois que c'est lui qui essaye de se rattraper.
Ah, moi, à mon avis, il s'amuse. Mais, on a aussi l'introduction des Eradicators. Donc, ça, c'était sympa. Il y a des liens avec Action Comics. Donc, ils sont bien raccord avec Grant Morrison aussi. Donc,
moi. Est-ce que ça pose pas des liens pour le futur crossover aussi?
Peut-être.
Vu alors, que ça s'appelle, fait, ça s'appelle Elle, quoi. Enfin,
en fait, il y a surtout une dernière, avant l'épilogue, il y a une dernière page qui est très mystérieuse, et si on voit j'ai vu une interview de Scott Lobdell, il disait que on aurait la réponse à ça dans 5 ou 6 numéros maximum. Mais c'était très mystérieux, qui raconte et la dernière page. Ça m'a beaucoup plu et j'ai vraiment envie de voir la suite pour ça. Et on a le retour de cette fameuse corne de brume, qu'on avait vu dans Superman 1 et dans Stormwatch. Ça aussi, peut-être qu'on aura des explications plus tard.
Ok.
Ah, pour moi. Et puis c'est beau, mais alors toi tu vas critiquer parce que c'est pareil, il y a encore toutes ces cases où en fait il prend qu'un tiers de la page et il y a plein de blanc partout. Ouais, il change un peu les couleurs sur certaines pages.
Mais voilà, non mais c'est ça, mais c'est tout ce que je demande, je l'ai feuilleté en même temps là. Donc oui, effectivement, il y a du blanc, mais il n'y a pas que du blanc. Moi c'était ça mon seul reproche, c'était que c'était trop blanc, trop lumineux, toujours trop que du blanc. Il pouvait changer de couleur. Là il l'a fait, moi je suis très content. C'est très beau par contre.
Bah c'est beau. Après ce qui est c'est du Rocafort, c'est-à-dire que tous les personnages sont super beaux et qui sortent de pub pour des produits de parfum quoi. Mais
oui. C'est un peu statique des fois quand même.
Il y a un caméo de Morgan Freeman aussi qui est pas mal.
Moi j'ai juste feuilleté, hein, j'ai pas eu le temps de tout voir.
Bon, voilà, pour moi c'est un bail et c'est peut-être de bonnes bases pour la suite de Superman. Peut-être qu'on aura un truc bien péchu par la suite.
On va terminer avec les TPB, mais avant ça, je voudrais signaler aussi la sortie d'un preview sur Hot World. Je sais pas si l'un de vous l'a feuilleté un petit peu.
Non.
Il y a juste des pages, enfin c'est voilà, c'est je pense peut-être des couvertures pour ce qui va venir. Mais en tout cas, elles sont superbes et elles donnent envie. Je veux dire, on a une page où on a un Animal Man qui se bat contre un Hawkman façon Roth. On a un Swamp Thing qui se retrouve à Gotham sur une gargouille façon Batman avec le symbole, le bat-signal. Enfin, ça donne juste envie de les lire, quoi, de savoir ce qui se passe parce que ça a l'air gigantesque. Donc si vous avez l'occasion, procurez-le-vous. Et bavez, et puis ça vous donnera peut-être envie encore plus d'aller voir ce petit crossover. En termes de TPB maintenant, cette semaine, il y a encore pas mal de TPB. Il y a un Absolute Sinestro Core War qui sort, n'est-ce pas, Sam ?
Sinestro Core War, ce qui est pour moi le meilleur arc de Jeff Jones sur Green Lantern à ce jour.
Je crois faux, c'est War of the Green Lanterns, arrête tout de suite, monsieur.
Non, mais pour moi, il atteignait vraiment un sommet, cette série, notamment le spécial qui précédait le crossover, qui annonçait vraiment le changement de statut du titre pour moi. Du petit titre qui se développait dans son coin à méga truc qui va changer tout l'univers DC.
On a aussi quatrième hardcover de American Vampire.
Très bonne série toujours de Scott Snyder, à suivre. C'est vraiment l'une des meilleures séries actuelles.
Et puis le troisième TPB de Near Death, une série de Jeff Herber qui sort chez Image et que j'aime beaucoup, qui est vraiment dans la veine polar. Et voilà, si vous ne l'avez pas lu en single et que vous avez envie de tester un bon petit polar sympathique, bah jetez-vous sur Near Death. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On a un peu dépassé le temps, mais c'est pas grave quand on est en bonne compagnie.
Hein. Oui.
Et puisqu'on en est dans les proverbes, comme on dit, il n'est de bonne compagnie qui se quitte. Donc c'est le moment de... c'est vraiment n'importe quoi.
De dire au revoir, de dire bonne nuit et beau rêve, ouais. Joyeux rêve.
Oui,
c'est
à
toujours
bientôt,
mieux que des crêpes et des beignets.
Quand même. On sera un peu triste qu'il n'y ait plus de numéro zéro.
Non, pas moi.
Je suis content d'avoir la suite des histoires de décès. Mais finalement, c'était pas si mal quand même ce mois de numéro zéro. Mais malgré ce qu'avait dit Bunny, il y a eu de bonnes choses.
On va en reparler dans le comics, dans le Weekly News, pardon.
Petit teaser.
On va en parler où ce sera le sujet de la semaine. Le Weekly News de cette semaine se portera sur les numéros zéro de DC, un mois de numéro zéro. Est-ce que ça va
être et sur les un an aussi. Non,
et sur les un an, ce sera l'occasion aussi de faire un premier bilan. Tout ça dans le Weekly News à sortir mardi. Et puis bien sûr, samedi prochain, le prochain Comics Weekly. D'ici là, comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Puis n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails. L'adresse est podcast@comiccity.fr. On a reçu un mail qui nous posait une question. On en parlera dans le Weekly News. Puisque là, bon, ça s'y prête pas trop. Puis on a déjà dépassé le temps, donc c'est déjà trop tard. Mmh. Et puis voilà, tous les anciens épisodes sur iTunes et bien sûr les autres articles des Unspoken, hein, donc des reviews écrites, des news, des guides, des tops et flops, tout ça sur comiccity.fr. À la semaine prochaine pour un prochain Comics Weekly et à mardi pour le Weekly News.
Oui, à plus et j'espère que vous avez fait des crêpes.
Ah, voleur de faim.